frères et sœurs, j'observais tout à l'heure au début de cette messe la composition florale de notre église avec ses quatre bouquets à la fois glorieux, solennel, pur, avec ses lys. Je ne connais pas les autres fleurs, mais je reconnais au moins les lys. Nous voyons à la place, souvenez-vous, des quatre bougies de l'Avent, nous voyons maintenant quatre épiphanies du Seigneur dans ce temps de Noël. Car nous avons vécu la nativité, nous vivons aujourd'hui la Sainte Famille, et bientôt ce sera le baptême du Seigneur et l'épiphanie. En réalité, ce sont quatre manifestations de la gloire de Dieu manifestée dans le Christ. Ce temps de Noël est donc un temps lumineux pour nos intelligences et savoureux pour notre cœur. Voilà pourquoi ce temps est une solennité. Voilà pourquoi nous déployons tous les jeux aux grandes orgues. Voilà pourquoi nous chantons de tout notre cœur, nous autres, dans la liturgie catholique, nous aimons à déployer les gestes et les couleurs, le chant selon toutes ces mélodiques, tout cet art de la liturgie a pour objectif de manifester combien Dieu est à la fois grand, mais aussi accessible, puisque nous le chantons. Nous l'adorons par tous les arts dont notre humanité est capable. Nous sommes plongés dans l'Écriture sainte aujourd'hui, particulièrement avec le premier livre de Samuel, qui est un livre charnière dans l'histoire de la première alliance. Car nous sommes 12 siècles avant le Christ, à une période où les 12 tribus d'Israël s'organisent comme autant de groupes autonomes sous l'autorité d'un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre en application de façon concrète et en contexte nouveau la loi de Moïse. Cette loi est donc le ciment de la communauté à la fois politique et religieuse. Les 12 tribus s'organisent de façon autonome, ai-je dit, et ce n'est pas encore le temps de l'unité des 12. Ce travail sera progressif. Et Samuel est un juge en particulier. Et de juge qu'il était, Samuel sera évoqué progressivement dans l'Écriture sainte comme prophète. Et son titre de prophète va supplanter son titre de juge. Comme si la consécration d'Israël passait plus par le charisme prophétique que par le charisme de la loi des juges. D'ailleurs, c'est Samuel qui va consacrer Saül comme roi, et le roi fera l'unité des 12. Voilà enfin un prémisse de la famille humaine qui va se réaliser grâce au choix du roi, fait par Dieu, mais manifesté par le prophète. Ici, vous avez pour la première fois dans l'histoire humaine une distinction entre le politique et le religieux, le charisme prophétique et le charisme royal, l'autorité de la foi, le prophète, et l'autorité de la loi, le roi. 30 siècles avant la période contemporaine, nous vivons quelque chose que nous appellerons très récemment dans notre monde la laïcité. Car c'est bien une articulation équilibrée entre le politique et le religieux qui est en train de s'inaugurer dans le peuple d'Israël. Mais c'est un autre enseignement qui nous est offert aujourd'hui. Car il y a 2 temples dont il est question, 2 maisons. 2 maisons familiales et religieuses. Le premier, c'est le temple de Silo, à 30 km au nord de Jérusalem. Et il y a là un prêtre qui fait son office de prêtre. Et l'office du prêtre, que ce soit Melchisédek ou Élie, à l'époque, il s'agit d'être sur les marches de l'église, du temple. Il s'agit d'être à la fois extérieur et intérieur, et de faire entrer et sortir, et de permettre la communication entre le sacré et le profane. Ce mot profane, d'ailleurs, qui veut dire « devant le temple », « profanum ». Le prêtre Élie n'a rien à voir avec le prophète Élie du IXe siècle. Ici, c'est vraiment le prêtre. Et c'est le prêtre qui va inspirer, grâce à Dieu, à Samuel, d'accomplir une œuvre, un charisme qui vient du ciel, en choisissant un roi. Ça, c'était le temple de Silo. C'était bien avant la construction du temple de Jérusalem, où maintenant Jésus est présenté par Joseph et Marie. 1000 ans séparent ces deux temples, 1000 ans séparent ces deux histoires, 1000 ans séparent les deux mamans, Anne et Marie, le papa Elkana et Joseph, Samuel et Jésus. Samuel dont le nom signifie « Dieu exauce » et Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve ». Car Dieu tout à la fois entend, exauce et sauve les plus humbles de la terre parmi les familles de ce monde. Voilà pourquoi dans la lettre de Jean nous entendons que nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et c'est parce que nous sommes appelés enfants de Dieu que nous vivons déjà de façon théologique cette famille du ciel. Car curieusement, Samuel est déjà de la famille de Dieu. Jésus est déjà de la famille de Dieu. Et tous ceux qui, dans cette église, ont reçu le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, les trois sacrements de l'initiation chrétienne, sont déjà enfants de Dieu. Et beaucoup d'autres, extérieurs à cette église, sont appelés à devenir enfants de Dieu et le sont déjà par espérance. Car voilà le projet bienveillant de Dieu pour l'humanité, que tout homme, toute femme en ce monde soit enfant de Dieu. Voilà un message inaudible pour beaucoup de nos contemporains. Comment est-il possible de dire que nous soyons sur un même pied d'égalité avec Dieu? Nous tous, dont nous connaissons évidemment les parts d'ombre dans nos vies, mais le Seigneur nous élève. La dignité qui est la nôtre vient de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui s'accomplit un admirable échange. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous sommes enfants de Dieu et cette dignité nous est rappelée sans cesse. Voilà pourquoi notre façon de concevoir la Sainte Famille est à la fois dans l'ordre de la société, le papa et la maman qui donnent la vie à des enfants, mais aussi tout homme, toute femme en ce monde qui entend de Dieu nous dire « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour », comme nous l'entendrons pour le baptême du Seigneur. Voilà pourquoi nous recevons cet appel étonnant. Quand Jésus dit dans l'évangile de Saint-Luc « C'est chez mon Père que je dois être », nous aussi nous entendons cet appel à l'image de Jésus, nous voulons être dans la maison de notre Père. Voilà pourquoi si souvent nous fréquentons l'église, en particulier la petite église domestique, ce coin prière de votre maison, j'en suis sûr. Ce lieu de silence, de méditation, de lectio divina, où peut-être chaque jour vous prenez plaisir à vous retrouver fidèlement, quelques minutes qui sont essentielles pour l'ensemble de votre vie professionnelle, sociale, pour votre vie familiale. Je pense à toutes ces familles qui ont le bonheur de vivre la prière en famille. École domestique de la vie ecclésiale, comme disait le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons besoin de faire naître une multitude de lieux d'église, mais aussi de lieux familiales, des foyers qui peuvent accueillir nos contemporains qui n'ont peut-être pas eu la joie, ou en tout cas pas depuis longtemps, d'être accueillis et aimés. Je pense à des initiatives très audacieuses, celles fondées par l'abbé Pierre il y a longtemps déjà, la communauté d'Emmaüs qui offre à des hommes, surtout des hommes, qui viennent de la rue et qui remettent le pied à l'étrier de la vie sociale et de leur dignité d'homme, d'enfant de Dieu, grâce à ces communautés d'Emmaüs. Je pense aux sœurs Marianites de Sainte-Croix qui accueillent en ce moment dans leur maison de la solitude des personnes seules, des femmes en particulier, qui ont été arrachées au réseau de la prostitution. Je parle de notre ville du Mans. Je pense à la maison de Lazare, où des gens de différentes générations vivent une colocation. Je pense à la communauté Saint-Vincent de Paul, aux maisons Tom Pouce, qui redonnent à des mamans de pouvoir vivre leur maternité sans pression de mort autour d'elles. Je pense aux apprentis d'Auteuil qui accompagnent les mineurs isolés, qui viennent par des chemins qu'ils n'ont peut-être pas choisis jusqu'ici et qui sont la proie trop souvent d'intentions malhonnêtes. Je pense aux orphelinats, à tous ceux qui vivent l'adoption, aux familles d'accueil. Je pense au foyer Mandela, à l'association Tarmac, à tous ceux qui, peut-être parmi vous aussi, donnent un coup de main dans une association pour offrir un foyer. Certes, parfois, il y a des initiatives plus ou moins étonnantes, mais c'est toujours mu par beaucoup de charité, par un travail prophétique. Nous voulons initier des chemins pour manifester combien Dieu nous aime. Et Dieu ne peut être Père sans que nous acceptions cette mission impérieuse de manifester de façon très concrète cette charité d'être frère. Dans ces temps de Noël et de Sainte Famille, continuons à ouvrir nos bras pour vivre ces familles de la terre qui sont un écho ici-bas de la famille du ciel. Amen.